Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la situation des forêts des Vosges. Alors, cette histoire de la forêt dans les Vosges, elle n'a rien d'un long fleuve tranquille. Bon, la forêt des Vosges, elle est quand même assez ancienne. On la connaît surtout actuellement pour ses résineux, mais il faut voir que, autrefois, au XVIIIe siècle notamment, les feuillus étaient préférés et il y avait très peu de sapins qui étaient vraiment exploités pour la marine. Et puis, suite à un défrichement assez intense dû à une augmentation de la population, on s'est aperçu que la forêt avait largement disparu et à partir à peu près de 1820, pour régénérer la forêt, il y a eu un fort enrésinement, c'est-à-dire une plantation de beaucoup de résineux. Cet enrésinement s'est prolongé hein, au XXe siècle. Pour plus de détails, vous pouvez lire les deux références que je vous ai indiquées dans le bas de cette diapo. On peut noter qu'il y a eu une première alerte sanitaire dans les années 40 due à la présence de scolytes qui ont beaucoup attaqué déjà à cette époque les résineux. Alors, la forêt des Vosges, elle est aussi soumise à des stress ponctuels importants dus à des tempêtes. Donc, bon, la plus récente, dans les plus importantes, hein, c'est certainement celle qui est baptisée Lothar, à la fin de 1999, qui a vu la mise à bas d'environ 10 millions de mètres cubes de bois et qui a affecté presque 300 000 hectares de la forêt vosgienne. Mais les Vosgiens se souviennent également de la tempête de 1902, qui avait déjà vu 1 million de mètres cubes de bois à terre. La tempête de 1952 est la première où il y a eu une évacuation un peu industrielle des Chablis, des bois mis à terre. Alors, ces tempêtes, c'est une chose, hein, ce sont des événements ponctuels, mais ce n'est pas les seules pressions qui se sont abattues sur la forêt vosgienne. Vous avez ici un graphique qui vous montre l'évolution des émissions de NOx et de SOx en France à partir de 1980. Et ces émissions d'oxyde d'azote et de soufre, en fait, quand ils retombent au sol, se transforment en acide nitrique et en acide sulfurique. Ces acides, quand ils apparaissent sur des sols qui sont déjà à tendance acide, hein, les Vosges, c'est du granit, c'est du grès, ça va renforcer en fait l'acidité naturelle et conduire à différents problèmes, des problèmes de corrosion dans les canalisations qui sont utilisées pour la production d'eau potable. Et puis, cette acidité, elle va également induire des mises en solution de métaux tels que le plomb et l'aluminium. Donc, ces métaux, c'est un problème pour la santé humaine, c'est aussi un problème pour la santé des écosystèmes, qu'ils soient aquatiques ou forestiers. Et notamment, ça impacte la croissance de la forêt, ça a donc un impact économique fort dans des forêts qui sont largement domaniales ou communal. Et donc là, vous avez une photographie qui montre l'état des épicéas soumis à ces pluies acides. Alors, c'est un peu à la suite de la visualisation en fait de ces défauts, de ces impacts sur la forêt qui a été mis en place en 2002, l'Observatoire de l'acidification. Donc, avec des laboratoires qui font partie de la zone atelier du bassin de la Moselle, en collaboration avec à l'époque le département des Vosges et avec l'ONF. cet observatoire de l'acidification, il suit environ 16 ruisseaux donc depuis 2002 pour les éléments minéraux et depuis 2012 pour tout ce qui concerne le carbone organique. Une partie de ces ruisseaux se trouve sur un substrat plutôt granitique dans le sud des Vosges et dans la partie moyenne ici, sur du grès. Alors, le but, hein, c'était de voir effectivement quel était l'effet de normes d'émission sur les SOx et les NOx beaucoup plus drastiques, et puis aussi de tentatives d'amendement, notamment par le largage par hélicoptère, hein, de calcaire et de magnésie pour essayer de remonter le pH de ces sols et donc d'améliorer in fine la qualité des écosystèmes à la fois aquatiques et forestiers. Alors, quelques données sur ces 16 ruisseaux, ils ont des profils très différents, à la fois en pH, en conductivité et puis en concentration en aluminium et en carbone organique dissous. Là, ce sont des moyennes qui ont été faites depuis 2002. Donc, on voit certains cours d'eau qui ont de fortes teneurs en aluminium, notamment le Courbeline qui se trouve sur grès et le Sellet qui se trouve sur granit. Les trois ruisseaux ici qui ont de fortes concentrations en carbone organique dissous, en fait, ce sont des ruisseaux qui sont issus de tourbières, ce qui explique en fait ces plus fortes concentrations. Alors, ce qu'on observe depuis la mise en place de l'observatoire, c'est pour le ruisseau du Sellet, donc sur granit, une concentration moyenne en aluminium qui varie grossièrement entre 250 et 300 microgrammes par litre. Pour le ruisseau de Courbeline, on voit que la concentration en aluminium a fortement diminué puisqu'elle est passée de 900 à environ 250. Ce qu'on observe également, par contre, c'est que la conductivité dans ces cours d'eau diminue fortement dans les deux cas qui sont présentés, mais globalement sur l'ensemble des ruisseaux. Donc, on pourrait se dire tout va bien, même si on a un problème éventuel lié à une hyper-oligotrophie. Mais en fait, pas tout à fait, comme vous pouvez le voir sur ces photos. On a une grosse crise sanitaire qui s'est développée au niveau des épicéas et le coupable, c'est le scolyte. La forêt vosgienne disparaît, on peut le voir sur cette photographie aérienne et on peut le voir également en se promenant hein, autour du massif vosgien. Alors ce scolyte, il attaque essentiellement les monocultures d'épicéas, mais d'autres résineux sont également touchés. Alors pour essayer de voir un petit peu l'étendue du désastre, on peut utiliser des photographies satellites. Donc on a commencé à utiliser des photographies qui viennent des satellites Sentinel 2 qui ont une résolution spatiale de 10 mètres et on arrive à avoir un suivi avec une fréquence de 3 jours. Alors évidemment, les satellites, c'est bien, mais ça ne fournit des images utilisables que lorsqu'il n'y a pas de nuages. Et donc, on peut essayer de compléter également par des photographies satellites de Landsat 8, mais qui ont une moins bonne résolution spatiale avec une périodicité de 16 jours. Alors, le suivi que je vais vous montrer, il concerne le vallon du Pléneau dans le Val d'Ajol. Donc là, vous avez une photographie de la situation en juillet 2019 avec l'abattage des bois et on aperçoit encore ici un épicéa en pas très bonne forme. Deux zones vont être considérées, une toute petite zone ici qui est baptisée Z1 et qui concerne directement le ruisseau du Pléneau et une zone plus importante baptisée Z2 qui correspond un peu au sommet de la montagne à cet endroit. Et vous voyez nettement ici la photographie en juillet 2019 et la photographie au mois de mai 2020. Toutes les zones rouges que vous voyez ici, c'est des zones où les résineux ont été coupés, où on voit la terre à nu. Donc pour faire ce suivi, On utilise donc à la fois les bandes vertes et rouges fournies par le satellite, mais également la bande infrarouge pour calculer le NDVI, le Normalized Diffuse Vegetation Index. Vous voyez ici les évolutions pour les deux zones, Z1 et Z2. Donc Z1, vous voyez ici tout l'hiver 2020, le moment où il y a eu une coupe rase sur cette zone 1, et puis et donc le canal rouge qui est plus important que le canal vert, tout simplement parce qu'on voit la Terre à nu. Ce qu'on voit également, c'est que rapidement, on a vu quand même une augmentation du NDVI, et cette augmentation, elle est due à une reprise de la végétation. Alors, vous pouvez bien imaginer que ce ne sont pas les arbres qui ont repoussé. Hein, pour l'instant, il n'y a eu aucune replantation, mais il y a eu un développement d'une végétation basse, des ronces notamment, hein, qui donc, ont contribué à l'augmentation de ce NDVI. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé sur la zone 2, ben, elle est encore en travaux, elle est encore en exploitation. Ils essayent de sortir le plus de bois possible. Donc là, on voit au printemps un peu plus de vert que de rouge. Le rouge ici et le vert sont maintenant équivalents pendant tout l'été. On voit un NDVI qui a légèrement augmenté, mais qui de toute manière reste inférieur à celui qui a été observé en septembre 2019, quand la parcelle, hein, le sommet, était encore en assez bon état. Alors, pourquoi ici cette zone blanche? Eh bien, comme je vous ai dit, les satellites, c'est très bien, mais quand il y a des nuages, on ne peut pas avoir d'image exploitable. Alors, quid de la qualité de l'eau qui sort de ce vallon? Alors, la qualité de l'eau, on l'étudie, donc vous avez vu, avec différents marqueurs pour des espèces minérales et des espèces organiques, et notamment pour caractériser le carbone organique dissous. En plus de la valeur totale de ce carbone organique dissous, on utilise des méthodes optiques basées sur l'absorbance et la fluorescence synchrone. Et donc là, en fluorescence synchrone, on peut quantifier une partie de la fluorescence qui est due aux substances humiques et une autre qui est plutôt due à des substances de type protéinique qui sont plus en rapport avec des réactions biologiques. Moyennement un petit traitement mathématique, on arrive à quantifier les différents fluorophores qui fluorescent en fait et qu'on voit dans ce spectre. Et donc là, vous avez une espèce d'évolution, hein, pour les différents ruisseaux que l'on suit dans l'observatoire.
Il reste 2 minutes.
Oui, de ces différents marqueurs. En ce qui concerne donc la qualité de l'eau qui sort du pléno, on n'observe pas actuellement de larges variations du carbone organique dissous, mais récemment, on a vu une augmentation forte donc de la fluorescence de type protéinique, donc qui montre normalement une activité biologique un peu plus importante, et cela a éveillé notre attention. Alors, en conclusion, grâce à l'Observatoire de l'acidification, hein, qui travaille depuis presque 20 ans sur ces cours d'eau, on pense observer une certaine stabilisation des systèmes en ce qui concerne notamment les minéraux, même si cette stabilisation n'est pas complète sur tout ce qui est les ruisseaux qui sont sur grès. Par contre, on se pose la question d'une tendance vers une hyper-oligotrophie. Actuellement, on subit une crise sanitaire très grave, avec probablement dû à la fois à des sécheresses saisonnières très importantes, mais peut-être aussi à un réchauffement global. Ces crises sanitaires entraînent des coupes rases très importantes au niveau de la forêt, avec un risque d'érosion des sols et potentiellement l'exposition des cours d'eau favorisée par rapport donc au rayonnement solaire. Notre observatoire continue à la fois avec les prélèvements, avec l'utilisation de l'imagerie et une augmentation également des possibilités de métrologie. Est-on à un tournant avec cette crise sanitaire? Ce sont les mois qui viennent qui nous le révéleront. Je vous remercie.